France Musique. Arnaud Merlin, les lundis de la contemporaine, France Musique.
Il est 21h03, c'est l'heure de la partie magazine de cette émission avec dans quelques minutes le reportage de Pierre Rigaudière. Il a fait le mur cette semaine avec Stefano Gervasoni. Et puis dans une vingtaine de minutes, nous retrouverons notre invité, le compositeur Emanuele Palumbo. Le magazine de la contemporaine. Depuis quelques années, le Collège des Bernardins au Quartier Latin à Paris accueille toutes sortes de manifestations artistiques et, dans le domaine musical, les propositions sont bien souvent différentes de ce que l'on peut entendre dans d'autres lieux. Sans doute parce qu'elles mettent en avant une approche explicitement pluridisciplinaire, la Biennale du Divers qui se tient au Bernardin samedi prochain, le 11 juin de 14h à minuit, accentue encore ce particularisme et cette singularité. Qu'on en juge, la danse, le théâtre, le cirque, la poésie sonore et les performances dialoguent avec la musique dans tous les espaces de l'abbaye. Les spectateurs ont rendez-vous avec les chemins de traverse de l'ensemble Dédalus, avec les créations de grands magasins et le minimalisme de Tom Johnson, avec un solo de chorégraphe, le chorégraphe brésilien Volmir Cordeiro, avec un récital du pianiste Stéphane Ginsburg, avec un autre solo de Vera Montero sur la voix de Gilles Deleuze, ou encore avec un duo formé par Mélissa Davo et Alice Gerlo-Kourouklis sous le nom de Polite Society, qui propose au public de s'allonger sur le sol, dans le noir, pour s'immerger dans une étonnante sonate hantée par des voix. En voici un petit extrait.
Et rien n'est synchrone. Je ne cessais pas de raconter l'histoire. Et c'est enregistré au magnétophone. Et quand il y avait plusieurs prises, on répétait les choses. Le magnétophone se mettait en marche. Quelquefois, il y avait deux magnétophones. Un pour la musique. Et un, quelquefois, avec les voix des comédiens. Et quelquefois, avec la mienne. C'est l'écrit, ça. J'ai toujours osé. Rien n'est synchrone. Je ne cessais pas de raconter l'histoire en dehors de nous. Et c'était enregistré au magnétophone. Et que. Et quand il y en a plusieurs plus, on répétait les choses. Soit le magnétophone se mettait en marche. Quelquefois, il y avait deux magnétophones. Un homme seul, un homme que seul, organiquement, seul, il n'y a pas. Et un, quelquefois, avec les voix des comédiens.
Rien n'est synchrone.
Sonata Haunted by Voices du duo Polite Society, formé par Mélissa Lavo et Alice Gerlo-Kouroklis. C'est au programme de la Biennale du Divers qui se tient samedi prochain de 14h à minuit à Paris au Collège des Bernardins. Cette semaine, Pierre Rigaudière a fait le mur à l'hôtel Gallifet, c'est le siège de l'Institut culturel italien de Paris, et pour répondre au poème gravé à la main sur ce mur, le compositeur Stefano Gervasoni a imaginé une sorte de sillon sonore. Notre reporter a rencontré Giuseppe Cacavalli qui a choisi les poèmes, le compositeur bien sûr Stefano Gervasoni, et puis aussi Marco Liumi de l'IRCAM qui a collaboré au projet.
Per sassi acuti ed alta e fratte al vento.
Dans ce projet, il y a plusieurs mondes qui se rencontrent.
Giuseppe Cacavalli.
Il y a surtout les valeurs de ce monde qui sont déplacées. Chacun de ces mondes, il n'est pas à sa place. Soit la typographie, normalement, qu'on trouve dans les livres, maintenant, est creusée, elle est gravée dans le mur. Soit le mot, que c'est pas important le lire, mais c'est important le voir, devient une figure. C'est pour ça aussi la rencontre, moi je dis la rencontre amicale, avec deux disciplines qui met ensemble tous ces mondes, que c'est la discipline du visuel et celui-là de la musique. C'est pour ça que ce projet a eu la nécessité de rencontrer la musique contemporaine, Stefano Gervasoni, voilà, et qu'on a un peu les mêmes préoccupations, c'est-à-dire Stefano, il met en musique les poèmes et moi je mets en figure les poèmes. Dove la vie et dove...
Car fu volto, mi sorga.
Je dis depuis quelque temps que je me mets en face à un poème, à une poésie, comme Paul Cézanne se mettait en face à la Sainte-Victoire. Pour moi, aujourd'hui, ce n'est plus possible de se mettre en face à une montagne, les choses sont beaucoup plus graves qu'avant, et la poésie est devenue la vie de l'homme. C'est-à-dire, c'est vraiment gravé et connaître en profondeur, et quand je dis en profondeur, je veux dire dans les alentours, la vie d'un homme. C'est ça le poème pour moi. Depuis longtemps, je m'intéresse à surtout à des poètes clandestins, c'est-à-dire des poètes que l'Italie ne veut pas connaître encore comme grands poètes. Ils sont encadrés par Giacomo Leopardi, qui pour nous c'est un peu le poète de l'erranza, c'est le poète de l'infini, mais c'est surtout un poète auquel, jusqu'à aujourd'hui, tout les gens, tous les poètes qui s'occupent de poésie sont pris, sont intéressés. Je voulais souligner simplement pourquoi la choix de ces quatre poètes. Ce sont quatre poètes qui sont vécus dans le même temps, dans les mêmes années. Ce sont des poètes amis. tous les quatre, ils étaient amis. Et pour revenir à Lorenzo Calogero, sur le mur est présent Leonardo Sinisgalli, un des majeurs poètes qu'on a eu. Et c'était le seul poète qui a reconnu Lorenzo Calogero. Et c'est par lui que j'ai connu l'œuvre de Lorenzo Calogero. Sinisgalli, c'était un poète scientifique, c'était surtout un ingénieur, était élève d'Enrico Fermi, mais il a choisi le monde de la poésie. Et c'était le seul capable à s'apercevoir qu'est-ce que c'était l'œuvre de Calogero. Et c'est lui qui l'a fait éditer après. Et alors, je trouve que c'est très important, après des générations, que notre travail, le travail d'auteur aujourd'hui, c'est celui-là de porter à la lumière, de donner la lumière une autre fois à de l'amitié. Lo spolvero, cette discipline, moi je l'appelle une discipline, c'est un code, c'est une grammaire, ça permet réellement, physiquement, de traduire le dessin sous le mur, le dessin de la lettre. C'est vraiment une expérience qu'on peut, je souligne, traduction. Parce qu'on me demande toujours pourquoi on ne projette pas. On ne peut pas projeter un mot, on ne peut pas projeter une lettre si on veut la rendre vivante. Si on veut rendre cette lettre palpitante en créant une architecture, quelque chose qui nous permet d'être traversé et de la compénétrer. Lo spolvero, ça nous permet ça. On peut parler de peau de l'architecture, peau de l'air, peau de l'espace. C'est vraiment un creuser, un arracher la peau de l'air, sans faire mal à personne.
Stefano Gervasoni.
Sous la peau du mur, il y a pour moi du sang, parce que comme un corps humain, on est traversé par une infinité de réseaux et j'imagine que tout fait du bruit et de la musique. Donc sous la peau du mur, il y a effectivement de la musique possible. Le mur est poreux, c'est comme un élément résonateur qui résonne aussi bien que l'espace qui l'entoure. Et finalement, dans le mur, on a donc caché un dispositif qui est fait de fils, de câbles, qui relie ici au parleur, avec des membranes qui vibrent et produisent du son. Voilà, la métaphore est devenue très concrète, aussi concrète que le mur. Avec Marco Liuni, qui est le réalisateur informatique musical qui a permis de faire ce projet. Et on a décidé de travailler uniquement la matière disponible, donc les bruits du chantier. C'est des bruits de ciseaux, médiannon, bouge, qu'ils utilisent pour graver les mots. Le bruit de l'enduit étalé sur la surface, la préparation du mur. Le bruit du spolvero, la fabrication du grand morceau de papier sur lequel on grave les lettres, le bruit de l'outil qui découpe les lettres, qui perce le... Voilà, ça c'est le bruit du chantier, donc la matière primaire. Puis le bruit, c'est que des mots, parler, il n'y a rien de chanté, parce que la poésie on ne la chante pas. On la fait résonner mentalement dans la tête, mais on ne la chante pas. Donc c'est vraiment la rencontre entre deux matières primaires, le bruit de la parole et le bruit du chantier. Et d'ailleurs, on a réfléchi ensemble à ce paradoxe, mais chanter et chantier, ça sonne ensemble. Et on a donc décidé de faire une sorte de chantier de parole ou de poésie, ou chantier, on l'appelle illuminé, comme la fabbrica illuminata di Luigi Nono, qui est un peu l'aspirateur, le père spirituel de ce projet. Il y a aussi des mots de Giuseppe ou des assistants de Giuseppe pendant le travail. On a aussi capté ce genre de bruit environnant.
Donc les six haut-parleurs qui sont encastrés dans le mur sont tout indépendants.
Marco Liuni.
Donc effectivement, après, le dispositif fait en sorte que, comme les haut-parleurs sont indépendants, chacun reçoit un signal indépendant. Et avec le dispositif de Alvis et Vidoni, qui est un dispositif de spatialisation, on peut effectivement gérer le flux de son pour que ça ait une direction et que du coup il y ait ce sens horizontal du mouvement le long du mur. Ce qui est intéressant, c'est justement que tout le travail qu'on a fait sur la génération de nouveaux sons, ce que Stéphane appelle les rencontres, c'est fait toujours entre la voix et les éléments du chantier. Donc il y a des procès d'hybridation ou alors d'extraction d'éléments résonnants, mais qui se font toujours à travers ces matériaux qui ensuite donnent lieu à des univers qui sont très différenciés entre eux. Et on passe de la voix à des éléments résonnants et voilà, c'est ça le principe. Qui, encore une fois, est alimenté par ce système pseudo-aléatoire d'extraction de fragments à partir de fichiers qui ont des durées plus importantes et qui, du coup, font qu'effectivement, la matière auquel les auditeurs sont confrontés ne sera jamais la même.
C'est plusieurs réservoirs de sons enregistrés et traités ou mis en interaction, chantier-parole. Et puis, il y a un système qu'on appelle radio, qu'on avait développé avec Alvise pour un autre projet. Donc la radio, c'est en fait une sorte de machine qui s'empare de certains morceaux de façon plus ou moins aléatoire, selon des paramètres qu'on donne, et prépare des fragments de son séparés ou pas par des silences d'une taille qu'on peut régler. Et tout ça fait une sorte de nappe sonore d'une voix, qui peut être constitué à l'intérieur de plusieurs voix. Donc ça fait une couche, une trame, une texture qu'on peut ensuite diffuser à l'intérieur d'un haut-parleur ou de plusieurs haut-parleurs. Donc c'est une sorte de polyphonie, parce que les six haut-parleurs, c'est pas que six voix indépendantes, mais c'est aussi un amalgame de voix qui ont une notion de profondeur, d'espace déjà dedans. Et ces six univers polyphoniques qui se rencontrent et qui peuvent tout le temps aller l'un dans l'autre, s'amplifier, se réduire. Et à partir de là, on peut recommencer vers les sons du chantier, mais si on recommence la boucle, ce ne sera pas exactement la même rencontre des sons. La forme est gardée, mais comme une sorte de mer dans laquelle les vagues font un tout presque uniforme, mais chaque vague a une forme différente. De la poésie de Calogero, donc intimiste, donc si on veut un peu lyrique, disons notion normale de poésie, plutôt traditionnelle, c'est pas de la poésie expérimentale, il y a tout un travail sur les mots, mais pas dans le sens de les déconstruire, mais vraiment de trouver le bon mot pour dire de la meilleure façon telle chose. Donc pour moi, tout ça, ça signifie dispositif classique aussi au niveau de la musique, et le dispositif classique, c'est le voix et piano. Donc la référence principale, le lead allemand ou la mélodie française. Donc le dispositif, c'est ça. Mais comment ne pas être passéiste en faisant du lead? Voilà pourquoi arrive l'électronique, pour ouvrir, pour transcender un dispositif qui a l'air très contraignante. Et finalement, à partir de cette contrainte forte, par l'électronique, on peut créer un espace beaucoup plus grand, jusqu'à abolir l'espace et à faire entrer un mur dans le son du piano qui accompagne une chanteuse, ou bien d'intégrer des éléments qui viennent de la nature. Il y a une pluie dans la première pièce qui tombe directement sur les cordes du piano par un système d'excitateurs qui font vibrer les cordes par sympathie, mais c'est de la pluie. Et par des procédés assez simples qui ont même un côté naturaliste ou hyperréaliste, on peut donner cette impression de transcender un dispositif qui est contraignant, mais qui finit par être le lieu idéal pour pouvoir évoquer des mondes possibles qui n'ont rien à voir avec ce qu'on voit ou ce qu'on entend. Et ça, donc, c'est un peu l'idée du mur qui devient transparent ou qui fait plus barrage, mais devient véhicule du son, et qui est peut-être le monde des idées, de la poésie, de la pensée, de la fraternité, d'un travail en commun. Voilà.
Merci Pierre Rigaudière pour ce reportage qui a été mixé par Claude Nior et réalisé par Marie Groux.
France Musique.
Bonsoir Emmanuele Palumbo.
Bonsoir Arnaud.
Est-ce que je prononce bien votre nom ?
Oui, parfait. Votre prononciation est impeccable.
Alors vous êtes à l'affiche du festival Manifeste qui a ouvert ses portes la semaine dernière. On vient d'en écouter un concert enregistré samedi ici même avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Là ce sera le 16 juin à 20h30 au Centre Pompidou avec l'ensemble Linéa que dirige Jean-Philippe Wurtz qui sera d'ailleurs mon invité lundi prochain. Tout est lié dans cette émission. C'est une pièce qui s'intitule Arto Overdrive. Alors on en reparlera un petit peu plus tout à l'heure, mais on va d'abord faire connaissance avec vous. Vous êtes un jeune compositeur, vous n'avez pas encore 30 ans,
oui.
L'année prochaine, hein, c'est ça? Vous êtes oui. De 87, et vous êtes originaire d'Italie, comme on peut le deviner par votre patronyme. Et vous avez d'abord étudié à Milan, avant de venir à Paris. Alors, quelle est la différence entre la scène milanaise et la scène parisienne, pour la composition, par exemple?
C'est une belle question.
Pour apprendre la composition, en tout cas.
Oui, c'est-à-dire il y a des spécificités dans l'Italie, mais finalement c'est une scène très internationale, la scène milanaise. C'est lié au conservatoire et j'ai choisi d'étudier à Milan, de me déplacer à Milan parce que c'est un peu en Italie la ville. Parmi d'autres, c'est un peu la ville où il se passe plus de choses, disons. Et aujourd'hui, c'est une école, c'est une ville très internationale. Il y a le conservatoire, il y a la Scuola Civica aussi, qui fait des choses très bien. Et donc, il y a des compositeurs de sud-américains, italiens, qui viennent partout. Et donc, c'est bien quand il y a un mélange, je trouve.
Et puis vous avez eu la possibilité de venir à Paris par le biais du système Erasmus, ça c'est formidable.
Oui, bien sûr, c'est ça.
Alors pourquoi Paris? Vous auriez pu aller à Berlin, vous auriez pu aller dans d'autres villes européennes où il y a beaucoup de... Et on a l'impression que beaucoup de compositeurs aujourd'hui choisissent Paris.
Oui, il y a plusieurs raisons. Premièrement, je voyais les gens plus âgés que moi qui allaient à Paris, disons, qui allaient à Paris, comme Ryan Nota, par exemple, Pasquale Corradio, Vittorio Montalti. Donc, je voyais eux et c'est normal pour un jeune d'imiter les gens qui sont plus âgés. En plus, il y avait l'IRCAM qui m'intéressait comme... dans ce qu'il passait, ce qu'il se passe, c'est-à-dire une liaison entre science et musique. J'ai fait aussi des études d'informatique, donc j'aime beaucoup la science, et donc j'ai aussi une âme scientifique, et donc c'était génial d'avoir un endroit où les deux choses se font en même temps. Et justement, à l'IRCAM, je trouve que c'est très excitant et très, très bien qu'il y ait des chercheurs scientifiques et des musiciens dans le même endroit. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on a les idées. C'est-à-dire, on se rencontre à la machine du café, on se rencontre physiquement.
C'est pas aussi bon qu'en Italie.
ça
s'améliore. Et donc vous rencontrez des scientifiques, ce qui vous permet de développer aussi vos idées sur l'électronique. Alors vous êtes passé au Conservatoire de Paris dans la classe de Gérard Pesson et puis vous avez fait ce qu'on appelle le cursus à l'IRCAM. Vous êtes d'ailleurs toujours en cursus à l'IRCAM. Et là vous avez signé une pièce pour clarinette basse et électronique. Ça c'est vraiment le fruit de la rencontre que vous avez faite à l'IRCAM avec les scientifiques.
Alors disons que pas encore. Oui bien sûr. Mais pas, disons, pas dans le spécifique, ça c'est la pièce cursus, donc c'est une pièce de fin de cours, mais bon, disons que mon travail avec les scientifiques, ma rencontre avec les scientifiques, c'est plutôt à Arto Overdrive, qui c'est la pièce qui va être jouée le 16 juin.
Mais là, il y a déjà une référence, ça s'appelle Corps sans organes. Alors qu'est-ce que ça veut dire, Corps sans organes? C'est une référence justement littéraire aussi.
Alors, disons que c'est Antonin Artaud qui parle de, du corps sans organes dans son texte pour en finir avec le jugement de Dieu. Et donc il parle de ce corps malade qui est malade parce qu'il y a, il a des organes. Et donc la seule solution pour le guérir, c'est lui enlever les organes. C'est très intense comme texte. D'ailleurs, c'est une émission radiophonique qui est faite.
Qu'on a entendue sur France Musique plusieurs fois. Mais alors, ça veut dire que pour trouver une analogie avec la clarinette basse et l'électronique, vous avez enlevé des organes de la clarinette ou...
Tout à fait. Ben, l'organe en question, c'est le bec de la clarinette. Donc, j'ai enlevé le bec et j'ai tout un monde de sons, de bouche, enfin de consonnes, de souffle, sifflement s'ouvre.
Et l'interprète chante dans l'instrument, il y a toute la résonance, tout ça qui entre en jeu.
Tout à fait, c'est cette technique du douk que je pense qu'on va entendre là.
Ah, le douk, oui, ça c'est l'instrument arménien, oui.
Oui, tout à fait. Et donc, c'est avec la voix, on peut obtenir un son de l'instrument traditionnel, avec l'instrument en chantant à la même hauteur de la. Dans la fondamentale. Et dans la pièce, c'est ce son du douk qui nous fait passer de la première partie, qui est plutôt linéaire, avec une écoute linéaire, une perception, et qui nous fait passer à la deuxième partie après un interlude d'électronique. Et paradoxalement, dans cette deuxième partie, le temps se fige, disons, et c'est un temps plutôt. Disons, un temps. Qui
figé,
est figé, redondant.
Ouais. Et on va écouter cette pièce. C'était donc en avril 2015 dans la grande salle du Centre Pompidou. C'est Joséphine Besançon qui est à la clarinette basse et c'est vous-même qui maniez l'électronique. Ça s'appelle Corps sans organes. Thank you. Ça s'appelle Corps sans organes pour clarinette, basse et électronique de Emanuele Palombo qui est notre invité ce soir. Joséphine Besançon à la clarinette basse et le compositeur qui maniait l'électronique, c'était lors du concert Cursus de Dircam au Centre Pompidou en avril 2015. Emanuele Palombo, vous faisiez allusion à Antonin Artaud à propos de cette pièce. C'est donc Antonin Artaud qu'on va retrouver le 16 juin également au Centre Pompidou dans le cadre de manifeste. Ça s'appelle Artaud Overdrive. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette pièce que vous allez donner en création dans une dizaine de jours?
Oui, alors le point de départ, l'idée de cette pièce, je l'ai eue parce que j'étais sujet d'une expérience dans l'équipe crime de l'IACAM.
Et vous me faites peur parce que Artaud, il a été soumis à des expériences psychiatriques, surtout à la fin de sa vie.
Oui, l'électrochoc. Ouais. Oui, c'est peut-être un peu ça qui se passe après avec les instrumentistes. Vous allez comprendre parce que, en gros, cette équipe crime étudie les émotions en musique, disons ouais. Les réponses émotionnelles du langage non verbal. Donc, avec des capteurs justement de fréquence cardiaque ou de respiration ou des capteurs pour les mouvements faciaux.
Ils vous ont équipé pour voir quelles étaient vos émotions et vos réactions.
Oui, voilà, si j'étais con.
Et ça a marché.
Et c'était frappant parce que j'ai découvert que la fréquence cardiaque, disons, apparemment, elle est cyclique, c'est un phénomène régulier. Mais en fait, si on étudie bien les temps, c'est pas du tout ça, c'est-à-dire c'est quelque chose qui change tout le temps par rapport à notre émotion justement, ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on fait donc aussi à notre état physique. Et j'ai passé plusieurs mois à écouter ma fréquence cardiaque, les fréquences cardiaques, les battements de cœur. Et j'ai voulu créer un matériel musical qui est le temps de la fréquence cardiaque. C'est-à-dire donc, je me suis inspiré de la musicalité de la fréquence cardiaque pour créer un tempo fluctuant, une espèce de rubato de la musique, disons, romantique. Et donc, plus précisément dans la pièce, j'ai voulu créer, disons, une polyphonie de tempi cardiaques, une polyphonie cardiaque. J'ai équipé les
musiciens. Ça veut dire que vous avez équipé chaque musicien de capteurs?
Tout à fait.
Tous les musiciens? Non.
Pas tous. Mais seulement trois musiciens. D'accord. Dans l'ensemble. C'est-à-dire l'ensemble, vous verrez, est divisé en trois sous-groupes, sur le plateau. Et il est ce qu'on appelle la spatialisation de l'ensemble sur la scène. Et dans chaque sous-groupe, il y a un musicien qui est équipé de ses capteurs. Il ne ressort pas d'électrochoc, vous inquiétez.
Oui, alors c'est lui qui donne le tempo du sous-groupe.
Oui, tout à fait. Le métronome cardiaque, et il est diffusé dans un haut-parleur. C'est quelque chose qu'on va voir, vous savez, avec l'électronique jusqu'à la dernière minute.
Alors je précise pour les auditeurs que ce concert sera enregistré le 16 juin et qu'on le diffusera dans cette émission le 27 juin.
Et je me suis rendu compte aussi que c'était une cage. Suivre vraiment le tempo cardiaque, c'est une cage. Et donc, disons que je me suis plutôt inspiré par les variations de tempo. J'ai calculé les variations de tempo pour vraiment... pour créer la musique, pour donner le tempo, parce qu'on ne peut pas faire une musique seulement à la fréquence cardiaque. Oui. C'est très contraignant.
Alors, on ne peut pas écouter cette pièce ce soir, puisqu'elle sera créée le 16 juin. En revanche, vous nous avez apporté une autre de vos compositions, un trio pour violon, violoncelle et piano. Là, c'est une forme classique. Oui. Et donc, vous avez essayé d'en sortir un peu, ou d'opposer le piano, de travailler sur les cordes du piano par rapport aux cordes du violon et du violoncelle, c'est ça?
Tout à fait. J'ai cherché un point de contact entre les cordes et le piano, et justement, le piano est un instrument à cordes. Mais on est détaché, on est sur le clavier, on joue les touches, mais j'ai voulu, j'étais beaucoup inspiré par le travail de Michel Agnès Magalhães, et qui est une compositrice
dont on écoutera la musique tout à l'heure. Oui.
Et donc elle travaille directement sur les cordes, et enfin mais aussi enfin c'est une chose qu'on fait aujourd'hui de rentrer dans le cordier, bien sûr. Et, disons que un monde de sons inharmoniques pour été s'ouvre. Le pianiste utilise une boîte en plastique, un verre par exemple. Mm-hmm. Pour agir directement sur le piano. Et aussi les cordes, disons, sont déterritorialisées, disons, mm-hmm. C'est-à-dire, c'est un mot compliqué, c'est-à-dire, il joue un archet, avec un archet cannelé, donc un fil en plastique entoure le bois. C'est un archet que... ce particulier archet, je l'ai expérimenté, je l'ai travaillé pendant aussi plusieurs mois. Et donc ça crée une relation entre les objets au piano et les cordes.
Trio pour violon, violoncelle et piano de Emanuele Palombo, qui est notre invité ce soir, par l'ensemble MD, qui est un ensemble de musiciens italiens que nous avons d'ailleurs reçu cette année dans le cadre du festival Présence. Emanuele Palombo, on a entendu tout d'abord une œuvre pour instrument seul et électronique. Ici, c'est un trio avec des modes de jeu tout à fait particuliers, hein, par rapport au piano, notamment le jeu dans les cordes avec cet archet cannelé. Est-ce que quand vous écrivez pour ensemble, par exemple, Le visage de mon double, qui est une pièce qui a été créée par l'ensemble multilatéral, est-ce que vous avez aussi des modes de jeu très particuliers de façon à ce qu'on ne sache plus très bien identifier la source?
Bien sûr, ça peut se faire dans un ensemble plus large, comme ça serait le cas d'un Arto Overdrive.
Mais la pièce qu'on entendra le 16 juin, oui.
Bien sûr, mais aussi dans un ensemble de quatre. Oui, ici, c'était l'idée du double. Donc, dans un ensemble instrumental, je traite les instruments en groupe de deux. Et c'est bien sûr les cordes.
Il y a une flûte et un saxophone ténor d'un côté, violon, violoncelle de l'autre, qui sont travaillés vraiment en opposition.
Oui, en opposition, dans le sens que j'ai un réservoir des techniques instrumentales qui passent dans l'ensemble, donc des techniques aux cordes, qui d'ailleurs, des techniques aux cordes qui sont passées au bois, au devant, en opposition bien sûr, oui, mais enfin, à la fin de cette pièce, elles vont créer une texture qui va les voir ensemble.
Mais finalement, le double, c'est peut-être deux aspects de la même personne.
Oui, tout à fait.
Comme on voit souvent dans la musique romantique, par exemple. Mais vous citez Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est un peu le même effet, finalement.
Oui, c'est beau comme voir comme une personne, une chose peut changer. Donc, toutes les côtés, les mille possibilités, le double, oui, un double sombre. Mais c'est aussi par rapport, par exemple, à l'idée de au violoncelle. Le violoncelle dans cette pièce a deux archets. Donc, dans la main droite, il a bien sûr l'archet ordinaire, et dans la main gauche, il y a l'archet cannelé, c'était le même du trio. Et je l'exploitais de cette façon, dans cette pièce. Donc, elle a aussi une sourdine, quelque chose qui étouffe les cordes. Et donc, je me mets dans une situation d'exigence, enfin d'émergence, c'est-à-dire si on n'a pas les mains pour jouer des auteurs, bah, il faut rebondir, il faut explorer les cordes dans leur texture, dans leur qualité. Et donc cette idée est traduite par exemple au violon avec un archer qui m'a proposé Antoine Maisonneuve d'ailleurs.
Qui est le violoniste qui joue, oui, avec Séverine Ballon au violoncelle, Matteo Cesare à la flûte et Miguel Angel Lorente au saxophone.
Et donc cet archer a des cannelures sur le dos, sur la partie en bois. Et donc on a le même concept, les mêmes possibilités du violoncelle, mais enfin, avec une technique traditionnelle, enfin, plus traditionnelle du violon. Et au même temps, au bois, donc à la flûte et au saxophone, et il y a tout le monde des consonnes, des souffles, des sifflements qui est présent dans ma musique.
On écoute le visage de mon double.
Thank you.
Le visage de mon double d'Emmanuel Palombo, qui est notre invité ce soir, les musiciens de l'ensemble multilatéral, soit Matteo Cesari, flûte, Miguel Angel Lorente, saxophone, Antoine Maisonwood au violon et Séverine Ballon au violoncelle. C'est un enregistrement que vous nous avez apporté, Emmanuel Palombo, aussi pour annoncer votre concert du 16 juin prochain au Centre Pompidou avec cette création de Arto, Overdrive. Et comme vous êtes bon camarade, Emmanuel Palombo, vous nous avez aussi proposer des pièces d'autres compositeurs, d'autres jeunes compositeurs, oui, ou compositrices d'ailleurs, de votre génération ou de quelques années qui vous ont précédé, comme Michel Agnès Magalhães. Vous faisiez allusion à elle tout à l'heure en disant qu'elle vous avait apporté beaucoup dans sa manière de concevoir le piano et la composition.
Oui, elle aussi, elle a passé beaucoup de temps à explorer le piano à l'intérieur, surtout avec l'improvisation. Et elle me disait qu'au Brésil, les musiciens font beaucoup d'improvisation parce qu'il y a un monde de tabous lié à la culture, c'est-à-dire en Europe, on est habitué à une culture européenne, enfin, on a une tradition très forte que aux Amériques, il y a pas. Et ça peut être pas bien, ou ça peut être un avantage.
Il y a une très très belle musique populaire, donc il y a des croisements, j'imagine, entre la musique populaire et la musique savante, plus aisée peut-être.
Bien sûr, oui. Et donc elle a exploré l'instrument de cette manière, mais après elle a composé cette pièce, enfin, qui est issu d'un grand travail vraiment de...
Alors le piano est préparé, elle met des choses dans le piano.
Oui, tout à fait. La préparation, elle écrit cette pièce pour un anniversaire de Cage. Enfin, c'était une occasion d'après les sonates de Cage, et donc c'était la même préparation du piano de Cage.
Et comme ça, parce qu'il ne faut pas défaire la préparation pour en refaire une autre, ce qui prend du temps systématiquement.
C'est très compliqué. Il paraît que Cage était très méticuleux, très, très soigneux
En tout cas, le mode d'emploi est précis au début de la partition des sonates et interludes de Cage. Ça s'appelle Mobile, et c'est donc Michel Agnès Magalhães, qui est une compositrice originaire du Brésil, on l'aura compris, mais qui est venue s'installer à Paris. Elle travaille d'ailleurs à l'IRCAM, elle est aussi musicologue. Par ailleurs, on l'écoute, c'est elle-même qui joue cette pièce Mobile au piano, Michel Agnès Magalhães.
Thank you. Thank you.
Mobile pour piano seul, piano préparé, de Michel Agnès Magalhaes. C'est elle-même qui jouait du piano ici. Emanuele Palombo, c'est vous qui nous avez proposé cette pièce d'une de vos collègues, d'une de vos camarades, en quelque sorte, qui vous a d'ailleurs beaucoup inspiré, vous nous le disiez. Hein. C'est quelque chose qui vous touche particulièrement, cette démarche.
Oui, bien sûr.
C'est une compositrice qui est donc de votre génération. Et on va se quitter avec un autre compositeur, Julien Malocena, qui lui était un élève de Jean-Luc Hervé. Il se trouve que la pièce que nous allons écouter était dirigée par Jean-Philippe Wurtz, hein, qui va créer votre pièce le 16 juin avec l'ensemble Linéa. Là, il est avec un autre ensemble. Qu'est-ce qui vous a retenu dans l'œuvre de Julien Malocena, en dehors du fait que c'est un de vos camarades?
Oui, bien sûr. C'est l'essentialité des matériaux musicaux, c'est-à-dire chaque objet musical est un objet à lui. Et c'est une pièce qui vraiment, il y a une recherche exploratoire, une démarche exploratoire, mais finalement, une grande richesse est créée avec des sons enfin, très, très simples, mais très, très riches à l'intérieur.
Quand vous dites des sons très riches à l'intérieur, mais très simples à l'origine, est-ce qu'il faut y voir un lien avec la thématique du festival Manifeste de cette année qui traite de l'arte povera, une sorte d'art pauvre, en lien avec une grande exposition qui a lieu au Centre Pompidou ces jours-ci, où beaucoup d'Italiens sont représentés pour l'arte povera?
Oui, Pellone, Merz. Ouais. Bien sûr, oui, c'est une thématique très chère, je pense, à la nouvelle génération, aux jeunes compositeurs. C'est-à-dire, on veut détourner les instruments pour nous rendre dans une situation d'émergence de l'écriture. C'est-à-dire, on a peu et ce qu'on a, on le fait avec beaucoup d'envie, avec beaucoup d'intensité, parce que c'est la seule chose qu'on peut faire. Et c'est une situation aussi dont les compositeurs ont besoin de se mettre, c'est-à-dire se créer des contraintes, des cages pour opérer, pour faire.
Mais est-ce que ce n'est pas un entre-deux, finalement, parce que vous continuez quand même d'utiliser les instruments? Les artistes, les plasticiens de l'arte povera, ils vont utiliser un bout de corde, un fil de fer, ils vont renoncer évidemment à la peinture de chevalet, ça il y a longtemps, oui. Et ils vont utiliser des matériaux de base. Est-ce que finalement vous ne pourriez pas créer vos propres instruments en renonçant à la lutherie traditionnelle? Aller encore plus loin?
Oui, bien sûr, c'est une belle question, ça. Mais justement, avec la musique électronique, on a attendu cette idée de créer des méta-instruments avec avec les moyens électroacoustiques à l'époque, ou avec la bande, ou avec l'ordinateur aujourd'hui. Mais disons que j'ai compris avec plusieurs années, un peu de temps, que enfin on utilise encore les vieux musiciens parce que les vieux instruments. Parce que enfin dans le sens c'est cette belle tradition qu'on a parce que enfin ils sont des spécialistes, alors ils peuvent être très expressifs avec enfin, mais disons que ce n'est pas une chose simple. Oui. Pendant que je formule, je pense à son contraire. Enfin, mais je pense que, disons, c'est de se mettre dans une situation de tension, je pourrais dire d'handicap, mais c'est pas, oui. C'est-à-dire de détourner quelque chose qui existe comme vider un corps d'organes, on pourrait dire, oui. Qui nous apporte dans une nouvelle énergie. Oui, on peut créer de nouveaux instruments, ce qu'a fait par exemple Henri Parch, par exemple.
Oui, dont on entendra l'opéra avec Rainer Goebbels le 18 juin dans le cadre de Manifeste. Et puis on peut faire aussi de la technologie basse fidélité, hein, plutôt que de l'électronique ou de l'électroacoustique très, très sophistiquée. Certains le font. certains compositeurs vont dans cette direction-là.
Bien sûr, parce que disons, la limite d'avoir... Enfin, la limite de l'haut-parleur, c'est ce que dit aussi Philippe Manoury, c'est-à-dire que l'haut-parleur, c'est quelque chose de très pauvre au niveau de rayonnement. Un instrument est quelque chose de très riche, et un haut-parleur a bien sûr une limite. Alors, avec une technologie plus simple, plus, disons, entre guillemets, plus sale, on peut avoir une certaine... vie qui n'est pas dans un beau haut-parleur. Mais, bien sûr, c'est une des possibilités.
On se quitte, Emanuele Palombo. C'est une question qui reste ouverte. On pourra en parler longuement. On se quitte donc avec cette pièce que vous nous avez également proposée de Julien Malocène, qui est un de vos camarades. Il est né en 1980 et ça s'appelle Concerning Articulated Sound. Et c'est une pièce de 2014 interprétée par l'ensemble Ecce. C'est un ensemble américain, c'est ça?
Oui.
Sous la direction de Jean-Philippe Wurtz, qui sera donc notre invité la semaine prochaine. Yeah. Concerning Articulated Sound, une pièce de Julien Malocena, ici par Lecce Ensemble, dirigée par Jean-Philippe Wurtz. Et c'est donc Jean-Philippe Wurtz qui dirigera votre création avec l'ensemble Linéa. Emmanuel Palombo, ce sera le 16 juin prochain au Centre Pompidou dans le cadre du festival Manifeste qui dure jusqu'à la fin du mois. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Emmanuel.
Merci à vous de m'avoir invité.
Et Jean-Philippe Wurtz, décidément, ce sera donc aussi notre invité la semaine prochaine dans cette émission. Nous évoquerons bien sûr ce concert du 16 juin avec Linéa et puis aussi ses activités au sein de la Fondation Royaumont, puisque Jean-Philippe Wurtz a pris la suite de Marc Texier pour la session Voix Nouvelle qui se déroule à l'automne. Et auparavant, lundi prochain, nous aurons diffusé un autre concert du Festival Manifeste, un concert que nous enregistrons après-demain, c'est mercredi prochain, avec les Neue Vocal Solistes et l'ensemble Klangforum de Vienne dans des pièces de Bert Forer et de Salvatore Sciarrino. Merci à Marion Guillemet qui nous a aidé à préparer cette émission, à Marie Groux qui l'a réalisée comme chaque semaine, et ce soir nous étions en compagnie de Julien Calva, Emmanuel Dupuis et Thomas Bizot. Vous êtes à l'écoute de France Musique, il est 22h30, c'est l'heure des communiqués.